La lettre aux Éphésiens a été écrite par l'apôtre Paul à destination des chrétiens de la région d'Éphèse. Et je pense que le thème général de la lettre aux Éphésiens est un peu ceci. Paul appelle les destinataires de cette lettre à prendre conscience de ce qu'ils sont en Christ afin de pouvoir rentrer pleinement dans la vie nouvelle. Il y a 2 semaines, nous avons déjà commencé à ouvrir ce livre et dans le passage qui précède celui que nous allons lire ce matin, Paul a attiré en particulier notre attention sur la raison pour laquelle il nous a sauvés. Dieu nous a sauvés pour qu'en Christ, nous célébrions sa gloire. En nous sauvant, Dieu nous a accordé une grâce immense, celle d'avoir la vie éternelle, bien sûr, mais pas n'importe quelle vie. Une vie de célébration, une vie où nos yeux sont conscients de qui est Dieu et cela nous amène à rendre gloire à Dieu. Et après avoir dit cela, Paul poursuit sa lettre. Et je vous invite à trouver dans vos Bibles donc le chapitre 1 et nous commencerons notre lecture au chapitre 15, verset 15 jusqu'au verset 23. Ce passage commence par, dans ma traduction, « c'est pourquoi ». Ce que va dire Paul est lié à ce qui précède. « C'est pourquoi, pour être en mesure de célébrer sa gloire, » je commence ma lecture, « c'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Paul a commencé à implanter les églises dans la région d'Éphèse environ 10 ans avant la rédaction de cette lettre. Paul est resté dans cette région quelques années et puis il a poursuivi son travail missionnaire. Et après le départ de Paul, eh bien, ces chrétiens ont persévéré dans leur foi en Jésus. Et Paul, qui à ce moment-là, au moment où il écrit cette lettre, est loin d'eux, il est prisonnier à Rome, eh bien Paul entend parler de leur foi. Et Paul se réjouit de ces nouvelles qu'il entend. Il exprime sa reconnaissance à Dieu, versets 15 et 16. Après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Voilà, Paul se réjouit pour ces hommes et ces femmes qui ont placé leur foi en Jésus. Et ces personnes ne sont pas juste des chrétiens de nom ou d'apparence. Ce sont de véritables chrétiens qui sont demeurés fidèles à Jésus et qui marchent à sa suite en mettant en pratique la volonté de Dieu dans leur vie, à tel point que Paul, qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres d'eux, eh bien, entend parler de leur foi. Quelle joie, quelle reconnaissance au Seigneur pour ces enfants de Dieu, pour ces hommes et ces femmes que Jésus a sauvés et qui lui appartiennent. Mais Paul ne se contente pas d'exprimer sa reconnaissance au Seigneur pour eux. Paul prie également pour eux. Et il prie parce que ces chrétiens, pour vivre pleinement leur vie nouvelle, leur vie avec le Seigneur, eh bien ces chrétiens ont besoin de prendre conscience de quelque chose. Ils ont besoin de mieux réaliser qui est Dieu. Ils ont besoin de mieux connaître Dieu. Verset 17, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » C'est étonnant, n'est-ce pas? Paul a prié pour que les chrétiens d'Éphèse connaissent Dieu. Et si Paul vivait aujourd'hui, je pense qu'il prierait également probablement pour nous. Parce que, quel que soit le lieu et quelles que soient les époques, les êtres humains souffrent du même mal, celui de ne pas connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Alors bien sûr, en tant que chrétiens, nous connaissons un certain nombre de choses sur Dieu. Et nous en connaissons suffisamment sur Dieu et sur son plan pour pouvoir placer notre foi en Jésus et être sauvés. Nous en connaissons suffisamment sur Dieu pour le prier et lui rendre un culte. Nous en connaissons suffisamment sur Dieu pour savoir quelle est sa volonté et quelle direction donner à notre vie. Nous savons un certain nombre de choses sur Dieu, mais pourtant, nous ne connaissons pas encore Dieu tel qu'il est vraiment. Et cette mauvaise connaissance de Dieu nous empêche de vivre pleinement la vie nouvelle qui nous a été accordée en Jésus. Nous pouvons connaître suffisamment Dieu pour être sauvés et pour prendre les bonnes décisions dans notre vie et rentrer à son service. Et pourtant, nous pouvons être loin, et même très loin, de bien le connaître. Et cette mauvaise connaissance de Dieu nous prive de la joie de célébrer la gloire de Dieu, qui est pourtant la raison pour laquelle nous avons été sauvés. Alors peut-être que, parce que dans votre enfance, on en parlait tout à l'heure, peut-être que parce que dans votre enfance, vous avez reçu un enseignement chrétien, eh bien vous pensez aujourd'hui en savoir suffisamment sur Dieu. Vous pensez en avoir fait le tour. Eh bien vous vous trompez. Entendre parler de Dieu ne signifie pas que vous l'avez rencontré, que vous le rencontrez personnellement et que vous le connaissez vraiment. Vous avez tout à découvrir sur Dieu. Peut-être que parce que vous êtes chrétien depuis longtemps, ou que vous avez lu votre Bible plusieurs fois, vous pensez bien connaître Dieu. Eh bien, vous vous trompez. Il ne suffit pas de connaître Dieu depuis longtemps, ni d'avoir lu sa Bible pour le connaître totalement. Il vous reste encore bien des choses à découvrir sur Dieu. Et Dieu n'a pas fini de se révéler à vous au travers de sa parole. Peut-être que, parce que vous avez beaucoup étudié et que vous avez été formé par les meilleurs enseignants, vous pensez tout connaître sur Dieu. Eh bien là encore, vous vous trompez. Il ne suffit pas d'accumuler un savoir sur Dieu pour bien le connaître. La plupart des destinataires de la lettre aux Éphésiens ont été instruits par le meilleur enseignant depuis Jésus. C'est Paul en personne qui les a formés et qui les a bien formés. Mais pourtant, Paul écrit à ses chrétiens : « Je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » qui vous le fasse connaître. Paul prie pour des chrétiens qui ont une foi réelle et agissante, qui ont une vie d'église et qui ont été bien formés. Et il prie afin que Dieu intervienne dans leur vie, afin de leur donner un esprit de sagesse et de révélation qui leur fasse connaître Dieu. pour mieux connaître Dieu, nous avons besoin de l'intervention miraculeuse de Dieu. Et nous avons besoin qu'il se révèle à nous. Que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui nous le fasse connaître. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées, parce que notre cœur et nos pensées sont trop petits pour concevoir et pour recevoir Dieu tel qu'il est. Verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Alors, la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Mais l'histoire des hommes nous montre malheureusement que nous avons fait l'inverse. Nous nous sommes créés un Dieu qui est à notre image. Et selon ce que nous sommes, eh bien le Dieu dans lequel nous croyons a tendance, c'est bien, à nous ressembler. Si nous manquons de grâce dans notre vie, nous avons tendance à penser que Dieu est dur et que Dieu ne veut pas faire grâce. Ou alors juste du bout des lèvres, qu'il ne pardonne pas tout à fait. Si nous sommes centrés sur nos propres besoins, alors nous pouvons penser que Dieu fait les choses uniquement dans son intérêt. Si nous ne sommes pas des gens qui tenons nos engagements dans la vie, nous risquons de penser que Dieu n'est pas fidèle non plus. Que Dieu fait des promesses, mais que derrière, il ne les tient pas. Si nous sommes indifférents aux autres, probablement que nous allons penser que Dieu est indifférent également. Parce que notre intelligence est limitée et parce que notre cœur est étroit, nous avons tendance à nous faire un Dieu qui nous ressemble, un Dieu que nous sommes en mesure de comprendre, en mesure de mesurer, d'imaginer. Mais Dieu ne nous ressemble pas. Dieu est infiniment plus grand que nous. Et Dieu ne se comprend pas. Il nous dépasse totalement. Son existence et sa nature sont même incompréhensibles pour nous. C'est pour cela que pour connaître Dieu, nous avons besoin que Dieu nous accorde un esprit de révélation qui nous le fasse connaître. Nous avons besoin que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Est-ce que nous prions notre Dieu afin que Dieu nous accorde un esprit de révélation? Et lorsque Dieu, par son esprit, se révèle à nous, est-ce que par notre attitude, parfois nous n'éteignons pas l'esprit de Dieu qui vit en nous? On n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie que Dieu nous ouvre les yeux sur certaines choses. Dieu veut se révéler à nous. Mais est-ce que de notre côté, nous cherchons à mieux connaître Dieu grâce à sa parole? Nous ne devons pas nous étonner d'avoir un Dieu qui est notre mesure, un Dieu qui est petit, un Dieu qui n'est pas enthousiasmant, si le Dieu que nous croyons connaître est un Dieu que nous avons construit à notre image. Dieu n'est pas comme cela. Dieu est bien plus grand que ce que nous sommes capables d'imaginer ou de concevoir ou de recevoir par nous-mêmes. Dieu nous dépasse et Dieu nous surpasse. Et lorsque Dieu touche notre cœur et notre intelligence, afin que nous puissions le découvrir tel qu'il est vraiment, alors cette connaissance de Dieu nous émerveille. Elle nous réjouit et cela nous conduit à célébrer sa gloire. Pour goûter pleinement à la vie que Dieu nous a offerte en Jésus-Christ, nous avons besoin de mieux connaître Dieu. Et en particulier de mieux le connaître à travers trois choses. Notre espérance, notre héritage, et l'infinie puissance de Dieu manifestée dans la résurrection de Jésus. La première concerne notre futur. C'est la formidable espérance que nous avons en Christ. Début du verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de notre cœur, de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. À l'appel de Dieu s'attache une espérance, celle de la vie éternelle. Un jour, Dieu créera un monde nouveau, un monde dans lequel le péché aura disparu, aussi bien notre péché que le péché des autres. Un monde de joie, de justice, de paix. Un monde où nous verrons Jésus face à face. Un monde où nous goûterons enfin une communion parfaite avec Dieu et avec les autres. Un monde où nous pourrons pleinement célébrer la gloire de la grâce de Dieu. À cause de notre péché, nous étions privés de la vie éternelle, mais dans sa grâce, Dieu nous a appelés, Dieu nous a pardonnés et nous a accordé une vie nouvelle, une vie formidable, la vie éternelle. Ça, c'est notre espérance. Lorsqu'il nous a appelés à lui, Dieu ne nous a jamais promis de nous accorder une vie facile en ce monde. Et si jamais nous croyons cela, si nous croyons que la nature de Dieu va se mesurer aux facilités, aux bénédictions terrestres que nous allons avoir dans ce monde, eh bien nous allons être déçus. Et cela va altérer l'image que nous avons de Dieu. Et cela va nous priver de la joie de célébrer son amour, sa puissance. Mais si jamais Dieu illumine notre cœur et que nous prenons conscience de notre formidable espérance, notre cœur alors va être rempli de joie, de reconnaissance, d'adoration, même dans les moments difficiles de notre vie. Parce que nous allons mesurer l'immensité de la grâce de Dieu qui nous a été accordée en Jésus-Christ et le bonheur éternel qui nous attend. La deuxième chose qu'il serait formidable que nous sachions concerne notre situation présente devant Dieu. C'est l'héritage que nous avons en Christ. Toujours verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Parce que nous avons placé notre foi en Christ, nous sommes co-héritiers de lui. Vous vous rendez compte? Et comment qualifier cet héritage que nous avons reçu? C'est un héritage glorieux. Nous ne sommes plus seulement des êtres créés par Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu, les enfants bien-aimés du Père. Nous avons un libre accès auprès de Dieu, et nous pouvons nous approcher sans crainte du trône de sa grâce. C'est un héritage qui fait de nous des gens riches, non pas des richesses de ce monde, mais des richesses spirituelles. En Christ, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. C'est ce qui est écrit un peu plus haut au verset 3. Nos péchés ont été pardonnés. Nous sommes vus au travers de Christ comme parfaits et sans défaut, verset 4. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Malheureusement, des fois, la vie avec Dieu nous semble pesante parce que nous imaginons que notre situation devant Dieu va dépendre de ce que nous allons faire, de nos œuvres, de nos mérites personnels. Mais notre position en Christ et notre héritage n'est pas lié à nos mérites personnels. Ce n'est pas lié à ce que nous avons fait pour Dieu. C'est l'héritage immérité que nous avons reçu de Dieu suite à la mort de Jésus. Jésus a tout fait pour nous. Jésus a tout payé pour nous. Et par notre foi en lui, eh bien, nous héritons de ce qui aurait dû lui revenir. Nous héritons de Christ. Lorsque nous prenons conscience de la richesse de notre glorieux héritage en Christ, nous mesurons mieux à quel point Dieu nous a aimés. Et notre cœur est alors disposé à l'adorer et à le célébrer. La troisième chose qu'il serait formidable que nous sachions concerne l'infinie puissance de Dieu manifestée lors de la résurrection de Jésus. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, versets 19 et 20, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous savons que Dieu est puissant, n'est-ce pas ? Est-ce que nous savons ça ? On le sait bien. Eh bien, ce que Dieu aimerait que nous sachions, c'est qu'il est infiniment plus puissant que ce que nous croyons et ce que nous sommes même capables de concevoir. La puissance de Dieu est infiniment grande. L'infinie grandeur de sa puissance est écrit dans nos Bibles, comme si le mot puissance ne suffisait pas. C'est-à-dire que rien, absolument rien, n'est en mesure d'empêcher la toute-puissance de Dieu d'agir. Bien des personnes, bien des créatures célestes s'opposent à Dieu et sont puissantes également. Mais rien ne peut empêcher notre Dieu, notre Père, d'agir comme il le veut et quand il le veut. Eh bien, Dieu aimerait que nous soyons conscients que lorsqu'il a ressuscité Jésus, eh bien, il a déployé toute sa puissance en Christ. Et cette puissance a agi avec efficacité, et envers qui ? Avec efficacité envers nous qui croyons. La résurrection de Jésus correspond au déploiement de l'infinie puissance de Dieu en notre faveur. Elle est la réalisation du plan d'amour de Dieu, plan conçu par Dieu avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, pour que nous devenions ses enfants adoptifs. Par sa mort, Jésus a payé le prix de notre péché, et par sa résurrection, nous avons reçu la preuve que le prix payé pour notre péché a été suffisant. C'est pour cela que Jésus est ressuscité. Parce que le prix payé pour notre péché a été suffisant. En Jésus-Christ, toute la puissance de Dieu s'est déployée et Dieu a réussi l'exploit, quelque chose qui semble totalement impossible. Dieu a parfaitement exercé sa justice en condamnant le péché et en même temps, Dieu a accordé sa grâce aux pécheurs que nous sommes. Comment imaginer qu'une telle chose puisse être possible ? Dieu est parfaitement juste. La justice de Dieu s'exercera sur tout homme. Mais à nous qui sommes en Christ, nous recevons la grâce. Parce que Jésus assume à notre place le prix que méritait notre péché. Dieu condamne le péché tout en accordant sa grâce aux pécheurs. Dieu veut que nous sachions qu'il a utilisé l'infinie grandeur de sa puissance en notre faveur, en ressuscitant Jésus, mais aussi en lui rendant la domination sur tout ce qui existe. Les ennemis de Dieu et Satan en particulier sont puissants, et ces puissances invisibles aimeraient nous arracher entre les mains de Christ. Tout à l'heure, Romains 8 a été lu, qui nous rappelle. Eh bien non, c'est impossible. Rien ne pourra nous arracher des mains de Christ. Et pourquoi cela ? Parce que Jésus règne et que Jésus a reçu la domination sur toute puissance. Versets 21 à 23. Jésus règne au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en nous, en tous. Jésus est non seulement notre Sauveur et notre Seigneur, mais Jésus est également celui qui règne au-dessus de toutes choses. Et c'est à lui que nous appartenons. C'est lui qui est notre chef. C'est de son corps dont nous faisons partie. Rien, absolument rien, ne peut empêcher l'infinie puissance de Dieu, manifestée en Christ, d'agir en notre faveur. Lorsque nous sommes davantage conscients de qui est Dieu et de ce qu'il a fait et fait encore en Christ, notre cœur nous pousse à l'adorer. Lorsque nous sommes conscients de notre espérance, de notre héritage, lorsque nous sommes conscients que nous sommes au bénéfice de l'infinie grandeur de sa puissance, nous sommes émerveillés et nous sommes poussés à célébrer la gloire de sa grâce. Si nous ne sommes pas désireux aujourd'hui de mieux le connaître, et si nous ne le prions pas pour qu'il se révèle à nous, si nous ne cherchons pas non plus à mieux le connaître à la lecture de sa parole, ne nous étonnons pas d'avoir une vision si étriquée et si peu enthousiasmante de Dieu. Dieu est là, Dieu veut se révéler. Mais c'est nous qui disons, non, moi j'en veux, je veux pas en savoir plus. Ce que je sais sur toi me suffit. Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut que nous apprenions à mieux le connaître, afin que les yeux de notre cœur s'ouvrent, pour que nous soyons émerveillés par ce que nous découvrons sur lui, et que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés en Christ. Ma prière est celle que Paul a adressée aux chrétiens d'Éphèse, que je pense que nous pouvons nous attribuer. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Que cette prière puisse être la nôtre. Amen.